Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Et aujourd'hui, on se débride un peu et on parle de sexualité avec Claudia Duchesne et on parle de sport et de voyage avec l'ex-athlète paralympique en ski de fond, Jimmy Pelletier. Vous écoutez Les Passions de Camille. Ici Camille Chai, j'ai le plaisir de recevoir ma première invitée, Claudia Duchesne, qui est auteure et fondatrice des éditions Raconte-moi. Elle a 33 ans, elle habite à Saint-Honoré-de-Chicoutimi, au Saguenay. Bonjour Claudia.
Bonjour.
Comment
tu
vas?
Raconte-toi.
Raconte-toi, excuse-moi.
Non, il n'y a pas de problème, je te pardonne tout.
Ben écoute, ça commence bien, on part ça du bon pied. Mais écoute, parlant de Raconte-toi, j'aimerais que tu me racontes tout d'abord, quel est ton handicap?
Ben moi, je suis paraplégique. Bon, l'histoire n'est pas longue.
Ben, quand même, je pense qu'il y a beaucoup de choses quand même à raconter derrière ça.
On va y aller avec l'histoire de la paraplégie, parce que mon handicap, c'est simple, c'est je suis paraplégique. Mais là, l'histoire est plus complexe un peu. Mm-hmm. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une maladie vraiment rare qui s'appelle la maladie de Ollier. Ça, c'est mon squelette, il fait des genres de kystes osseux multiples. Mes os font des petites bosses. Puis ça, c'est genre 0,00000, plein de 0, 1% de la population. Puis moi, j'ai vécu avec ça toute ma vie. J'ai ça depuis la naissance. Puis je suis quand même quelqu'un de très, très intense. Puis j'avais découvert ma passion. Je faisais des courses à obstacles. Puis pendant une course à obstacles, j'ai tombé sur le côté. Puis je me suis fait mal aux côtes, puis je pensais que j'avais des côtes, je m'étais cassé les côtes, fait qu'on a commencé à prendre des rayons X et tout ça, puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de côtes cassées, mais il y avait une excroissance osseuse qui se développait dans le dos. Mm-hmm. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que dans le 0,00001% de la population, il y a 10% de personnes qui ont le risque de développer un cancer, puis ben, le diagnostic est tombé. Mon excroissance osseuse que j'avais dans le dos avait le cancer, fait qu'il fallait le retirer. Mm-hmm. Puis c'était sans eux autres, tu sais, dans le fond, ça avait comme été pris pour acquis, là. C'était une grosse masse de 16 cm d'os, fait que c'était une opération de routine, là. On enlevait le cancer, on en refaisait une belle job, on en refaisait de quoi qui ressemblait une colonne vertébrale, puis on en refermait le tout, puis je repartais sur mes deux jambes, puis je continuais mes courses obstacles, mais finalement, quand ils m'ont ouvert, puis on partait pour retirer le cancer, je me suis vidée, il y a eu des complications, puis je me suis vidée de mon sang comme deux fois, j'ai eu besoin de 10,5 litres de transfusion sanguine, ce qui est quand même beaucoup, là. Mon corps en a peut-être 4.
Aïe, aïe.
Fait que après, à partir de ce moment-là, ben ma moelle épinière a comme manqué de quelque chose. Je sais pas quoi, elle me l'a pas dit, mais elle a manqué de quelque chose. Puis mon corps, dans le fond, mon corps, il avait plus assez de sang pour gérer tout, puis il a décidé de conserver le cerveau. Puis on est bien heureux, on est bien en paix avec tout ce choix-là que le corps a fait cette journée-là. Fait que je me suis réveillée en avril 2016 à l'âge de 28 ans paraplégique.
Et comme tu dis, le choix de ton corps, parce qu'on peut penser à la tête versus les jambes, c'est comme si ton corps a choisi de sauver ta tête plutôt que les jambes.
Ouais. Ben moi c'est le même que moi c'est. Le même.
C'est comme ça que tu le vois.
C'est le même que je le vois. C'est ça, c'est le même que je le vois que ouais, parce que je me suis vidée comme de monter mon, ils ont voulu qu'ils me donnent 10,5 litres de sang à l'espace de je pense. Comme 1 minute 40, là, ou 2 minutes, fait que c'est vraiment, c'est mon corps voulait vraiment plus de sang, là, fait que, qui a juste gardé ce qui restait pour conserver toutes les fonctions cérébrales qui me sont très utiles en ce moment.
Oui.
Comme en ce moment-là, là.
Bien sûr, bien sûr. On n'en doute pas.
Je suis vraiment contente. Plus utile qu'une paire de jambes, là.
Ben,
chose que je n'aurais jamais cru à l'époque que c'est arrivé.
Non, hein. Ben, je pense que, comme on le dit toujours, tant que tu le vis pas, c'est difficile de. Si on te disait, si tu as le choix entre perdre ta tête ou tes jambes, c'est ridicule comme question, c'est assez intense, mais bon, c'est de ça que ça t'amène à parler de ça et à y réfléchir. Mais ce que je trouve beau, c'est que tu dis de toi d'être une sirène.
Oui, c'est ça. Moi, je trouve que je suis une sirène parce que moi, j'ai grandi dans Disney comme beaucoup de monde. Mais mon film préféré, c'était La Petite Sirène. Comme quoi, ça m'a rattrapée dans mon âge adulte. Puis La Petite Sirène, elle échange ses jambes contre une paire de. Elle échange sa voix contre ses jambes, puis finalement, elle se ramasse quand même fourrée là, tu sais. Puis moi, j'arrête pas de dire que je suis une sirène qui échangerait pas ma voix pour une paire de jambes.
C'est tellement beau. C'est très beau parce qu'on accède à ton côté plus créatif. Oui. Qui nous montre à quel point, bon, tu vis en fauteuil roulant maintenant, de tous les jours.
Mais évidemment. Moi, dans mon cœur, je suis Ariel, je suis une sirène, parce qu'une sirène, ça marche pas, une paraplégique non plus, fait que j'aime mieux dire sirène, c'est plus beau, je suis Ariel.
D'accord, Ariel, c'est noté. Mais, et là, je dois te poser la question, est-ce que tu peux nager malgré tout?
Mon Dieu, est-ce que je peux nager, c'est ça la question?
Oui.
je ne savais pas nager avant d'être paraplégique. J'avais pas appris à nager. Puis maintenant je flotte. Fait que s'il arrive quelque chose, un naufrage, tu peux t'accrocher à mes jambes. Est-ce que je sais nager? Je ne sais pas. Je fais que flotter.
Claudia, c'est incroyable parce que je veux dire, on en parle en riant. En fait, on blague beaucoup avec ça. Il y a un côté où j'ai un énorme respect pour ce que tu me racontes. On parle quand même de paraplégie, de cancer, de ta vie qui a changé, qui est passée du tout au tout. Mais ça démontre à quel point, encore une fois, l'humour est très important. Et tu l'utilises toi-même en parlant de toi. C'est merveilleux.
Ah oui. L'humour est important. Puis, tu sais, particulièrement toutes les personnes qui vivent avec un handicap, je pense qu'ils s'en sont rendus compte. Là, l'humour noir est un excellent remède à tout ça. Ouais.
Et oui. Et tu nous parles, en fait, j'aimerais que tu nous parles de... Parce que pour toi, il y a l'époque, et attention aux... J'allais dire pas aux âmes sensibles, mais plutôt aux oreilles sensibles. Hein. J'ai dit au début de l'émission qu'on allait se débrider un peu. Pour toi, il y a une époque du vagin senti.
Tantôt, je voulais pas te couper. Allez, aux oreilles sensibles ou attention au vagin sensible.
Et voilà. Mais explique-moi un peu tout ça.
Oui, ben c'est ça, parce que tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec une lésion à la moelle épinière, ben il y a différents niveaux. Moi, j'ai le niveau le plus complet, c'est que j'ai perdu toute sensation à partir de mon niveau de lésion qui est de sous-poitrine. Puis si les gens qui ont une bonne connaissance en anatomie savent que de sous-poitrine, il y a le vagin est là.
Oui.
Fait que moi, je le sens plus. Fait que pour ça, je rigole, je niaise beaucoup avec ça. Le monde dit, ça doit être dur de perdre tes jambes. Perdre un clitoris, je pense que c'est pire. Tu sais, honnêtement, là, donne-moi le choix. Genre, prends-tu une marche ou je retouche mon clitoris? Tu sais, je me pose même pas la question, là.
Oui, c'est ça. Que,
il y a l'époque, effectivement, je dis, il y a l'époque vagin senti, puis l'époque on recherche du nouveau point G qu'on appelle.
Et est-ce qu'il y a un moyen de développer ou de trouver un nouveau point G malgré tout?
Ben, semblerait-il que oui, tu sais, il y a beaucoup, ça serait de dire non, ferait confirmer le fait que les personnes handicapées n'ont pas de vie sexuelle. Oui, il y a une façon, c'est juste de le retrouver. Puis je pense que c'est beaucoup de donner le temps, tu sais, au même titre qu'à l'époque, vagin senti, du moment que tu commences à avoir, tu sais, des sensations, puis tout ça, c'est pas demain matin que tu deviens l'experte de la sexualité de ton vagin, là, fait que c'est, fait que je suis dans cette partie-là de donner le temps à la recherche du nouveau point G.
Ben,
fait que rappelle-moi dans je sais pas quel temps, puis on va pouvoir répondre.
Parfait, écoute, je mets ça à mon agenda. Mais un des moyens que tu as trouvé, par contre, pour t'épanouir et même inviter n'importe qui, tous les autres, à se découvrir aussi dans leur propre sexualité, et là, je le dis bien, handicap ou pas, hein, c'est pas ça le problème ou la question au final, mais tu as créé le journal intime Sexualité, qui s'intitule quoi, comment?
Tu pour qui?
Carrément.
Ouais, c'est ça. Ça aussi, ben, c'est beaucoup, hein, on a encore l'époque, hein, que je pourrais dire entre guillemets, l'époque vagin senti ou pas. On dit souvent qu'on crée des choses pour nous guérir. On crée des outils qu'on aurait aimé avoir, puis tout ça. Puis, ben, moi, tu sais, à l'époque vagin senti, j'avais une vie sexuelle, comme la plupart des humains. Puis des fois, il y avait des commentaires. En tant que femme, on reçoit souvent des commentaires de « Ah, t'as encore couché. » Puis moi, je trouve, tu sais, là, avec le recul de finalement, j'ai arrêté de sentir mon vagin à 28 ans, je me dis, avoir su, Colin, j'aurais moins écouté ces phrases-là quasiment. Tu sais, je me dis, il y avait une date d'expiration. Puis je le savais même pas, fait que je me dis, j'aurais aimé ça, avoir quelque chose pour moins me flageller, moins écouter ces phrases-là, moins...
Moins te retenir au final.
Oui, plus m'écouter moi, puis moins écouter les filles. Tu sais, moi, arriver chez nous, puis dire, ah, c'est vrai, tu sais, j'ai encore couché, j'aurais donc pas dû, finalement, ça valait la peine, ça valait pas la peine, ça valait pas la peine, j'ai ajouté la liste, c'est la fameuse liste, puis tu sais, tout ça, fait que j'aurais aimé ça avoir quelque chose qui est plus centralisé sur moi, par rapport à moi versus moi par rapport à tout ce que les autres disent.
Oui.
Fait que j'ai créé un outil qui s'appelle Tufourki, qui est pour lister carrément tes partenaires sexuels puis en tirer le meilleur pour avoir la meilleure vie sexuelle pour toi, dans le fond. Fait que...
c'est un outil de... carrément de développement personnel.
Oui, c'est oui, moi j'adore le développement personnel, mais je suis comme quelqu'un, je sais pas si ça paraît, mais je suis un peu dans le ludique.
Oui, ça paraît juste c'est un petit peu, Claudia.
Fait que c'est vraiment du développement personnel, mais c'est très, très ludique, là. C'est vraiment, tu sais, il y a des fiches de, comme un peu description de suspect. Tu peux un peu dessiner de quoi qu'il y avait de l'air. Après ça, son nom, son surnom, s'il évoquait son nom, ça te fait trop de... ça te stimule trop après ça. Tu sais, qu'est-ce que t'as aimé, les bons coups, si t'avais des attentes, puis qu'est-ce que tu voudrais regarder de cette relation-là. Puis c'est pas rien que d'évaluer l'autre aussi, parce que, tu sais, une relation, ça se passe à deux ou à plusieurs, là, mais... c'est que c'est pas juste les rester si c'était bon ou pas bon, c'est pas juste de la faute à l'autre individu, puis c'est pas juste de ta faute à toi non plus. Il y a un million de facteurs qu'il faut que tu évalues.
Oui.
Mais, tu sais, c'est vraiment fait sur une fiche de description avec des petites lignes, là, ben le fun à remplir, à partir de là.
Complètement, puis c'est un livre qui est non-genré aussi, donc
oui.
Vraiment, en fait, la notion d'inclusion, elle fait partie de cet outil-là.
Oui.
Et donc, où est-ce qu'on peut le retrouver et combien il coûte, ce livre?
Ben, on peut le retrouver, dans le fond, moi j'ai une page Facebook, là, puis comme tu dis, ben là, je vais parler du non-genré, parce que ça, je pense que pour vivre une exclusion en étant une personne en situation de handicap, rends compte que, mon Dieu, que ça doit pas être facile, finalement. Tu sais, j'aurais trouvé ça un peu contradictoire de créer un outil pour développer une vie sexuelle en mettant encore des vies sexuelles dans des cases. Fait que, tu sais, tu laisses pas les gars avec qui t'as couché, les filles avec qui t'as couché, c'est vraiment non-genré, il y a pas de... c'est tous les thèmes, j'ai essayé de choisir le plus de thèmes, ben c'est tous des thèmes... avec aucune identité de genre.
Oui.
Fait que moi, c'est ça. J'ai une page Facebook qui s'appelle Les éditions Raconte-toi, ou sinon aussi, on peut le trouver sur Etsy, là.
Et donc, il se vend à combien?
Ben, c'est sur Etsy, j'ai pas le contrôle sur Etsy du prix de shipping, là. Fait que sur Etsy, je pense que ça revient à 40$.
Mm-hmm.
Mais si tu m'écris sur Les éditions Raconte-toi, c'est 31$.
Magnifique.
En virement Interact, puis c'est ça, là. Ça, là, c'est Tufourki VIP que j'appelle Tufourki VIP édition lancement. J'en ai fait seulement quelques copies pour un peu avoir, tenter le marché.
Mm-hmm.
Puis je vais créer mon site Internet avec Tufourki de luxe, qui va être avec plein de commentaires des gens qui vont avoir rempli Tufourki VIP.
Oui.
Tufourki dans un... c'est ça, là. Fait que au printemps, il va y avoir un site Internet puis tout ça, là. Mais là, pour l'instant, c'est sur Etsy et Facebook que ça se trouve.
Et pour que les gens le sachent, Tufourki, c'est écrit Tufurki, donc Tufurki. Et pour ne pas faire un jeu de mots, c'est aussi une question, la sexualité, de se stimuler les sens. Alors, petit clin d'œil à la chanson qu'on va écouter tout de suite.
La nuit est belle, l'air est chaud et les étoiles nous matent, pendant qu'on kiffe et qu'on apprécie nos plus belles vacances. La vie est calme, il fait beau, il est 2h du mat, on est quelques sourires à partager notre insouciance. C'est ce moment-là hors du temps que la réalité a choisi, pour montrer qu'elle décide et que si elle veut, elle nous malmène. Elle a injecté dans nos joies comme une anesthésie, souviens-toi de ces sourires, ce sera plus jamais les mêmes. temps s'est accéléré d'un coup et c'est tout mon futur qui bascule. Les envies, les projets, les souvenirs, dans ma tête y a trop de pensées qui se bousculent. Le choc n'a duré qu'une seconde, mais ces ondes ne laissent personne indifférent. Votre fils ne marchera plus, voilà ce qu'ils ont dit à mes parents. Alors j'ai découvert de l'intérieur un monde parallèle. Un monde où les gens te regardent avec gêne ou avec compassion. Un monde où être autonome devient un objectif irréel. Un monde qui existait sans que j'y fasse vraiment attention. Ce monde-là vit à son propre rythme et n'a pas les mêmes préoccupations. Les soucis ont une autre échelle et un moment banal peut être une très bonne occupation. Ce monde respire le même air mais pas tout le temps avec la même facilité. Il porte un nom qui fait peur ou qui dérange. Les handicapés. On met du temps à accepter ce mot, c'est lui qui finit par s'imposer. La langue française a choisi ce terme, moi j'ai rien d'autre à proposer. Rappelle-toi juste que c'est pas une insulte, on avance tous sur le même chemin. Et tout le monde crie bien fort qu'un handicapé est d'abord un être humain. Alors pourquoi tant d'embarras face à un mec en fauteuil roulant ou face à une aveugle, vas-y tu peux leur parler normalement. C'est pas contagieux pourtant avant de refaire mes premiers pas. Certains savent comme moi qu'il y a des regards qu'on n'oublie pas. C'est peut-être un monde fait de décence, de silence, de résistance. Un équilibre fragile, un oiseau dans l'orage. Une frontière étroite entre souffrance et espérance. Ouvre un peu les yeux, c'est surtout un monde de courage. Quand la faiblesse physique devient une force mentale, quand c'est le plus vulnérable qui sait où, quand, pourquoi et comment, quand l'envie de sourire redevient un instinct vital, quand on comprend que l'énergie ne se lie pas seulement dans le mouvement. Parfois, la vie nous teste et met à l'épreuve notre capacité d'adaptation. Les cinq sens des handicapés sont touchés, mais c'est un sixième qui les délivre. Bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction, ce sixième sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre.
C'était Grand Corps Malade et sa chanson Sixième Sens, et je suis toujours avec Claudia Duchesne. Est-ce que toi, Claudia, tu as appris à justement développer ton sixième sens?
Ah, ben oui, vraiment. Ben, je l'avais... Tu sais, je pense que j'ai toujours eu l'envie de vivre, là. Mm-hmm. Mais je pense qu'en en tombant une personne en situation d'handicap, je pense que l'envie de vivre s'est complètement transformée avec l'envie de vivre pour moi. Ça a été un changement complètement radical. Puis pourtant, avant, j'étais pas quelqu'un nécessairement qui était... Tu sais, il n'y a pas une énorme différence... Mais je vivais quand même avec selon mes passions, puis j'avais quand même ma couleur, puis tout ça. Mais mm-hmm. Là, ça a été un changement quand même très radical de l'envie de vivre pour moi.
Puis tu dis que c'est bizarre, mais que malgré tout, c'est une épreuve qui a quand même changé ta vision de la vie, mais pour le meilleur.
Ah, ben oui. Oh, moi, j'ai déjà entendu en entrevue une personne qui disait « La paraplégie, c'est un cadeau que la vie m'a mal emballé. Mm-hmm. » Puis je suis 100% d'accord avec ça. Puis... C'est vraiment un cadeau que la vie m'a mal emballé. Puis, moi, je le dis souvent à l'exemple que c'est facile, la paraplégie, de dire que c'est facile parce que c'est tellement une phobie que tout le monde a. Moi, la première, j'avais la phobie d'être une personne handicapée. Moi, mm-hmm. On ne se le cachera pas. Mm-hmm. Puis, c'est tellement, c'est concret. Mais je pense que n'importe quel humain est capable de trouver un cadeau que la vie a mal emballé puis de juste déballer puis de voir c'est quoi le beau en dessous. Là. Moi, je suis pas meilleure que n'importe qui parce que j'ai réussi à déballer ma paraplégie puis de trouver un cadeau incroyable.
Mm-hmm. Mais l'image est quand même très belle, hein, comme quoi c'est important, malgré les difficultés de la vie, tout ce qu'on peut vivre, parce que Dieu sait qu'on peut en vivre des choses et des défis, des obstacles dans une vie, mais à quel point ça regarde que nous. En fait, notre vision de la vie, elle nous appartient. Donc, le côté positif des choses, c'est à nous d'aller chercher, c'est à nous d'ouvrir les yeux.
Oui, c'est ça, carrément. Puis il n'y a personne d'autre qui va pouvoir, le faire à ta place.
Non, effectivement. Et toi, tu me parles de passion. Quelles sont tes passions dans la vie, outre que la sexualité?
Pas moi aussi. Pour ça, il faudrait qu'on ait des heures d'entrevue. Ah, ben, je suis passionnée par la couleur. J'aurais tendance à la couleur, faire des listes. Pour ça, j'ai converti ça en les cahiers. Tu sais, tout. Moi, je suis vraiment. J'ai découvert cette année un thème qui s'appelle multipotentiel. Fait que j'ai 1 million de projets. J'adore les films. Oh mon Dieu, les téléfilms. Là, dans le temps de Noël, c'est le paradis sur Terre. Ensuite, j'ai une passion pour mon chihuahua. Mmh. Là, ben, je pourrais dire aussi que j'ai une passion pour mon
Pour ton conjoint, oui. Ben oui, il faut.
Trop petit. Il était nommé. On va recommencer. J'ai une passion pour mon chat. C'est non, mais c'est ça. Passion, j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup. Je dirais un éternel cœur d'enfant. Fait que j'ai l'émerveillement puis l'intérêt très facile. Fait que c'est. Puis même si je suis pas douée, même si je suis pas.
C'est pas ça l'important. Non, complètement. Ouais, ça. Le but, c'est d'avoir du plaisir dans tout ce qu'on fait, que ce soit petit ou grand, peu importe.
Exactement.
Est-ce qu'il y a une chose qui te manque de ton ancienne vie, entre guillemets?
Ben, mon vagin.
Voilà, est-ce qu'il n'est pas une surprise?
Oh non, il n'y a pas eu aucune surprise. Non, ben vraiment, c'est mon vagin. Là, je dirais qu'à part ça, pas, tu sais, il n'y a pas vraiment de. On pose souvent la question, puis je trouve que de répondre, tu sais, le monde dit, t'en retournerais-tu avant, puis tout ça, ça serait de. Je ne retournerais pas avant parce que tout ce que j'ai gagné, je l'aime plus que ce que j'ai perdu. Puis, tu sais, j'ai gagné aussi des relations qui me sont. Qui me sont très chères, puis tout ça. Fait que dire que je voudrais retourner comme avant, ça serait tout canceller mes amis que je me suis fait, tout ça, puis ça vaut pas la paire de jambes, là. Même pas le vagin. Là.
J'adore ton franc-parler. Et parlant de ton conjoint, ben, tu as justement eu un gros projet. En fait, le projet, il est énorme pour tout le monde quand on parle d'aménager ensemble pour la première fois, d'acheter sa première maison. Pour toi, ça a été toute une aventure, pour toi et ton conjoint?
Oui, c'est ça. On a la maison. Moi, je suis quand même quelqu'un de très, très intense. Et le conjoint aussi. Il n'y en a pas un qui ralentit l'autre, il n'y en a pas un qui... Fait que je suis tombée paraplégique en 2016, je suis sortie de ma réadaptation comme en fin d'année, puis tout ça. Puis en 2017, on a acheté un terrain, on a commencé à se construire. En 2018, on a déménagé ensemble, puis on s'est mariés la même année, comme à 2 mois d'intervalle. Puis on a fait une autoconstruction complète de la maison, là. Fait que on a fait creuser le trou, ils ont mis les murs. Puis après ça, ils sont partis, puis tout le reste a été fait. Là.
Puis évidemment, vous vous connaissiez avant ça, avant même de commencer tous vos projets, j'imagine, depuis quelques années, vous étiez déjà en couple?
Ben, ça faisait un an, mais nous, c'est mon premier chum, là, quand je dis que j'aime ça, les, hein, j'aime ça la romance. je suis mariée avec mon premier amour de jeunesse.
Que c'est beau!
Oh, non!
La petite Arielle a trouvé son prince charmant.
Oui, c'est ça.
Puis si on parle un peu des choses un peu plus sérieuses, parce que il y a évidemment aussi des embûches malgré toute cette motivation et cette envie de construire votre première maison. Il y a une question, en fait, j'aimerais que tu me parles du côté de la justice ou de l'équité au niveau des programmes qui existent pour l'aide financière pour les personnes qui veulent construire leur maison et qui ont des besoins particuliers comme toi qui es en fauteuil roulant. Comment ça s'est passé pour toi?
Ah, ben mon Dieu, c'est ça. De me parler de la justice, de ça, c'est difficile parce qu'il y en a, moi, personnellement, je trouve qu'il y en a peu. Parler de quelque chose qui existe peu, c'est que, tu sais, ben comme moi, je vais parler pour moi personnellement parce que, tu sais, moi, je viens de tomber paraplégique, puis là, ben, tu sais, c'est tellement plein de grosses situations, puis en plus de ça, tu ajoutes une tâche de plus qui est de trouver, il faut que tu trouves les ressources nécessaires, puis là, veux pas, on est en réadaptation dans un milieu que tout le monde a vécu, même, tu sais, tout le monde apprend à vivre avec l'handicap, puis là, ben, tu vois des situations, tu sais, tu vois du monde qui sont par des assurances, tu sais, qui ont des assurances, qui sont CSST ou SAC, puis du monde qui ont carrément rien, puis tout ça, puis tu vois, tu sais, tu te dis, c'est tellement bizarre de dire on a tous le même handicap, mais on porte pas tous à la même place, puis tu sais, c'est vraiment une grosse charge que je trouve d'être obligée de trouver tout ça quand ce changement de vie intense-là vient d'arriver, là. Mm-hmm. Puis moi, je dis pas ça parce que je trouve qu'un en mérite moins, non. C'est juste que je pense qu'il pourrait avoir. Je ne dirais pas rééquilibre parce que ça m'enlèverait à un, là, mais tu sais, je pense qu'il devrait avoir un ajustement de plus considérer l'handicap de pourquoi je suis handicapée. Là. Oui. Mais tu sais, je comprends la ressource. Tu sais, je comprends le fait qu'il y ait des ressources. Tu sais, c'est la CSST, tout le monde paye de la CSST, etc. Mais tu sais, il devrait avoir, je sais pas, quelque chose. Moi, je trouve ça.
Injuste.
Oui, injuste. Oui. Que moi, j'ai eu un cancer. Puis...
Non, non, je te comprends complètement.
J'ai eu un cancer, puis il a fallu que je paye mes cathéters. Puis, tu sais, pour les gens qui ne le savent pas, payer des cathéters, là, ça peut aller jusqu'à 800$ pour 2 mois. Faut que je paye. Ça peut me coûter 1000$ par 2 mois pour faire pipi. Ben, j'ai eu un cancer. Mais si j'avais chauffé ça en voiture,
ouais,
ça me coûterait pas, tu sais. Puis je dis pas que je veux même pas. C'est même pas un jugement vers l'autre ou pas, là. C'est juste que c'est une image qui est frappante.
Oui.
Je dis pas que la personne qui a fait cette action-là ne doit pas avoir cet argent-là. Elle souffre, tu sais, elle se réveille paraplégique, elle souffre autant de moins, là. Fait qu'elle aussi, elle a besoin de cet argent-là.
Oui.
Là.
En fait, c'est intéressant de t'entendre. Justement, ça nous amène à y réfléchir et bon, ça reste encore à être développé, mais en tout cas, s'il y a des gens qui nous entendent, qui peuvent changer quelque chose à ce niveau-là, ben, ce serait très, très apprécié.
Oui, c'est ça.
Et ben, pour terminer, il nous reste 2 minutes. J'aimerais que tu nous dises comment tu vis avec le regard des autres. J'imagine que tu dois avoir une ou plusieurs anecdotes en lien avec ça.
Ah, ben j'en ai plusieurs des anecdotes. Comment je vis? Ben moi, je suis en train de convertir ça en spectacle d'humour. C'est que je vis très bien. Continuer de me dire des phrases bizarres et de me regarder spécial, moi, ça me donne du matériel.
Tu prends tout en note.
Oui.
Et une phrase spéciale ou une phrase qui t'est restée un petit peu en travers de la gorge, ce serait quoi?
Ben, tu sais, je pense, je me suis déjà fait applaudir parce que on s'est déjà fait applaudir, mon conjoint puis moi, parce qu'on marchait main dans la main, mais la madame, elle me dit littéralement, comme vraiment applaudi. C'est comme, ah, ok. Oui, tu sais, il y a souvent c'est le fun du monde comme toi, là. Fait que moi, je ris souvent à ça, là. Tu sais, si je suis au centre d'achat, puis le monde, il dit, tu sais, j'ai une pinte de lait. Puis, c'est le fun de voir des gens comme toi sortir, des gens qui boivent du lait.
Oui, c'est ça. Il y a toutes sortes de réactions. Mais en tout cas, merci infiniment, Claudia, parce que ben, merci de nous avoir fait découvrir ton univers très coloré. Et ben, je veux profiter d'inviter les gens qui nous entendent à te suivre sur Facebook, d'aller acheter ton livre si le cœur leur en dit. Et je répète ta phrase que tu m'as déjà dite, mais l'important, en fait, c'est d'accepter notre propre différence pour pouvoir accepter celle des autres. Claudia Duchesne, merci infiniment et bonne chance dans tous tes projets.
Ben, merci de l'invitation, ça m'a fait plaisir.
Et restez avec nous parce qu'après la pause, je reçois Jimmy Pelletier. À tout de suite.
Vous écoutez Les Passions de Camille avec Camille Chaille.
Oui, ici Camille Chaille, je suis avec vous pour la prochaine demi-heure en compagnie de mon deuxième invité qui s'appelle Jimmy Pelletier. Jimmy est un ex-athlète paralympique en ski de fond et il est aussi fondateur et organisateur de la randonnée Jimmy Pelletier et aussi conférencier. Jimmy, bienvenue.
Merci, bonjour.
Bonjour, la liste est longue hein, quand on parle de toi et de tout, toutes les belles choses et les exploits que tu as accomplis.
Ah, mais gars, c'est ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui, puis ça va me faire plaisir aussi de vous parler là, de tout mon bagage, ce que j'ai accompli depuis que je suis tout petit.
Puis si on commence, bon, plus ou moins avec le début, ton enfance bien sûr, mais si je peux le dire comme ça, le 29 août 1996, c'est une date importante pour toi?
Oui, c'est ça, le 29 août 1996, là, j'ai eu un accident d'automobile suite à mon accident, mais j'ai perdu là, l'usage de mes jambes.
Mm-hmm.
Et puis, étant donné que j'étais un gars qui est originaire de Bécomo, à ce moment-là, j'avais 19 ans, ils m'ont transféré par jet ambulance, puis dans la région de Québec, puis après, mais c'est là que j'ai appris là, que le restant de mes jours, là, que je ne remarcherai plus là, le restant de ma vie.
Comment, je veux dire, c'est carrément un choc à 19 ans d'apprendre ça?
Ah, c'est sûr que quand ça quand il me l'a annoncé, c'est sûr que ça m'a touché là, directement à l'intérieur de moi. Mm. Mais c'est quoi que tu veux qu'on fasse à partir de ce moment-là, j'ai décidé de m'apprivoiser, mais d'apprendre à vivre là, à m'adapter dans ma nouvelle situation. Puis c'est sûr que ça n'a pas été facile, mais avec la persévérance, la détermination, mais j'ai pu être rendu où je suis rendu là aujourd'hui.
Complètement, puis on va le découvrir dans quelques secondes, tout ce que tu as accompli par la suite. Mais j'aimerais connaître la raison de ton accident.
OK, mais c'est ça. Moi, je m'endormais au volant. L'accident est arrivé le soir. Puis suite à la fatigue, mais là, je mets en automobile, là, mon auto a été directement dans un poteau. Fait que j'ai été injecté, puis suite à ça, mais je suis rendu paralysé aujourd'hui.
Donc, paraplégique, tu es en fauteuil roulant?
Oui, je suis en fauteuil roulant.
Est-ce que ta conférence que tu donnes, est-ce que tu en profites pour sensibiliser les jeunes? Parce que, bon, toi, c'est arrivé à l'âge de 19 ans. Est-ce que tu en parles de ça aux plus jeunes?
Ben oui. Ben, c'est sûr que moi, dans ma conférence, je parle toujours que quand j'étais petit, moi, quand j'étais petit, j'ai commencé à apprendre à parler là en troisième année. Fait que j'avais un problème de langage. J'étais quand même dans un environnement un petit peu plus défavorisé. Mais là, moi, j'ai persévéré. C'est grâce au sport là que ça m'a aidé énormément parce que moi, j'étais un joueur de hockey, un joueur de baseball là, avec de haut niveau. Je pouvais là, ça m'aidait beaucoup là pour quand j'arrivais à l'école. Mm-hmm. Et puis par la suite là, c'est sûr que là, je parle toujours là de après je parle de mon accident, quoi que ça en ait avant, profiter du moment présent parce que tu sais, je peux plus remettre mes patins, tu sais, c'était mon rêve de jouer au hockey dans la Ligue nationale. Mm. Même si c'est pas évident là, il y a un minime pourcentage, mais quand même là le rêve de pouvoir là atteindre là, des hauts niveaux là, mais quand j'ai eu mon accident, mais je me suis adapté dans ma nouvelle condition, puis je m'ai créé des nouveaux rêves, dont les paralympiques. Puis,
oui, tu as pu les vivre d'une façon différente, puis le ski de fond, est-ce que tu en faisais aussi avant ton accident?
Oui, j'avais déjà essayé, mais je trouvais ça, c'était vraiment pas évident là, à ce moment-là. Là, j'étais vraiment plus jeune quand j'avais essayé le ski de fond. Puis non, mais moi, c'est un de mes amis là, à Magog, là, Jean-Thomas Boily, qui m'a invité à un moment donné. Il dit, Jimmy, ça te tente, viens faire du ski de fond. Là. Ça serait le fun. Au moins, ça te donne la possibilité d'aller dans la forêt. Mm-hmm. Parce qu'en fauteuil roulant, là, l'hiver, c'est un petit peu plus compliqué là, avec les adaptations. Là. J'ai dit OK. Là, j'ai commencé à faire du ski de fond. Puis là, il dit, Jimmy, ça va super bien. Faudrait que tu viendrais pratiquer plus avec nous autres, puis l'équipe canadienne, ils pourraient te prendre en charge. Est-ce que c'est ça que j'ai fait? Puis après, ils m'ont emmené en Europe, puis j'ai fait l'équipe canadienne, puis là, mais ça m'a permis éventuellement d'aller faire les Jeux paralympiques là à Turin. Ça n'a pas été facile, mais c'était super.
Et t'as terminé dans quel classement aux Jeux paralympiques?
Moi, j'ai terminé 26e. Puis j'étais vraiment content parce que j'étais pas supposé d'être là. J'ai été qualifié. Ça faisait quand même juste un an, j'étais sur l'équipe canadienne. Le ski de fond paranordique, c'est un des sports les plus difficiles là, pour les Jeux paralympiques. Là, en ski de fond, c'est très, très dur de percer là-dedans.
Mais comment, explique-nous à quoi ça ressemble? Parce que tu restes dans ton fauteuil roulant. C'est quoi les adaptations pour pouvoir faire le sport?
Mais dans le fond, t'as une luge. Moi, je m'ai fait faire une luge. Elle pèse 4 livres. Mm. Puis, t'es assis vraiment bas, presque au niveau du sol. Puis, juste se donner une idée, là, le hockey sur luge, t'es vraiment à terre, tu sais. Mm-hmm. T'es comme sur une luge, mais ce qu'ils te font, t'es un petit peu plus haut, plus aérodynamique. Puis en dessous, t'as deux fixations que tu fixes. C'est des skis de patin, pas des skis classiques, mais des skis de patin. Il y a juste une glisse. Puis tes bâtons, mais là, t'es mis à la hauteur de la tête quand t'es assis. Puis après, là, tu te propulses. Puis c'est pas évident au début parce que se sortir des pistes là, c'est faut vraiment tu t'appuies sur tes bâtons, faut que tu pousses vers le haut, puis faut que tu te sortes des pistes. Fait que, ça a pris du temps là, avant que je sois capable de me sortir des pistes. Je restais pris dans les pistes là au début. Que... C'était vraiment drôle.
Ça fait partie du baptême.
Oui, c'est ça. Puis, mais tu sais, moi, le ski de fond, ça m'a permis, comme je disais tantôt au début, ça m'a permis d'aller dans la forêt, mais aussi voyager, vivre d'autres sensations aussi. Parce que quand je tombais en fauteuil roulant, j'ai commencé à faire des... je faisais de l'athlétisme en fauteuil roulant. J'ai fait des marathons, dont le marathon de Boston, Los Angeles. Puis, ça allait super bien. Mais à un moment donné, il a fallu que j'arrête. Pour des raisons personnelles. Puis là, après, mais là, je commençais à faire le ski de fond. Fait que j'aime bien ça.
Puis, je veux dire, en plus, tu as la chance d'être très bien organisé chez toi. Tu as ton propre gymnase, Jimmy?
Oui, c'est ça. Quand je m'ai fait construire la maison, là, c'est sûr que je m'organisais pour que ça soit bien adapté. Puis aussi dans mon sol, mais je m'ai acheté des appareils de sport, des appareils d'entraînement, je veux dire. Mm-hmm. Et puis c'est ça. Donc, je m'entraîne. Et puis présentement, mais là, je fais du vélo. Je fais du vélo de route depuis 2000. Avec l'hiver, ce que je fais, c'est que je rentre mon vélo. On appelle ça comme un compute trainer. Je l'installe en bas dans mon sol, puis je me mets devant la TV, puis je m'entraîne sur place. Que c'est cette façon-là que je fais du cardio.
Oui.
Je suis bien équipé, puis ça me permet de m'entraîner à chaque jour.
Puis tu fais partie de l'équipe canadienne pendant combien de temps?
En vélo sur route, j'ai commencé en 2012. J'ai été sur l'équipe canadienne pendant 2 ans. Et puis, ça allait super bien. J'étais rendu 11e au monde. Et puis, à un moment donné, pendant un camp d'entraînement là à Cuba, mais j'étais tout seul. Puis ça allait super bien. Tu sais, je poussais. Puis en plus, j'étais rendu carté. Tu sais, on avait un carté.
Oui, oui, oui.
Puis, il m'avait annoncé que j'avais mon karting aussi. Puis, Jimmy, tu sais...
Ça, c'est une bonne nouvelle parce que le karting, ça, en fait, ça peut te financer les frais de compétition et d'entraînement.
Effectivement. Oui, effectivement. Moi, mais je me trouvais de l'argent là, via des partenaires, mais c'est vraiment pas évident quand tu es un athlète là, olympique ou paralympique. Avec une subvention de même, ça nous aide énormément. Puis mon but, c'était d'aller à Rio de Janeiro au Brésil en 2016. Mm-hmm. Puis moi, à cette époque-là, je m'avais laissé avec mon ex-femme, que là, j'étais rendu tout seul à la maison avec ma petite fille, qui à ce moment-là avait 4 ans, 4-5 ans.
Oui.
Il fallait que je combine entraînement, m'occuper de ma fille, la maison, t'es en fauteuil roulant.
Oui, ça doit représenter beaucoup de défis.
Oui, c'est ça, que ça demandait beaucoup de défis. J'ai pris la décision de me sortir de l'équipe canadienne. Ça n'a pas été facile, mais de l'autre côté, je l'ai fait pour moi-même en premier lieu, mais pour ma fille aussi.
Bien sûr.
Puis, par contre, je me suis dit, bon, regarde, Jimmy, ce que tu vas faire? Je me parlais. Puis, j'ai dit, je vais partir une randonnée de vélo, la randonnée de Jimmy Pelletier, parce que ça va me permettre de m'entraîner, d'être avec ma fille, mais aussi de redonner au suivant. Puis, de ramasser des fonds pour les personnes qui en ont besoin, dont les personnes en fauteuil roulant, les handicapés physiques et intellectuels.
Mm-hmm.
Puis aussi, là, à ce moment-là, je redonnais aussi pour un autre organisme, là, puis pour les personnes défavorisées. Fait que là, j'ai commencé, puis je m'ai créé la randonnée de Jimmy Pelletier. C'est plein de cyclistes, là, environ 70 cyclistes. Faut qu'ils s'inscrivent. Puis on roule pendant 5 jours, environ entre 550 à 700 kilomètres en 5 jours.
Wow!
Puis c'est ça. Les autres, il faut qu'ils payent leur inscription, qu'ils ramassent des dons.
Mm-hmm.
Puis on roule, puis on a du plaisir. Mm-hmm. Dans le fond, on part le matin, on a 2 pelotons. On roule, puis quand on arrive, on fait un tailgate, on prend une petite bière, on a de la musique, on a du plaisir, on soupe, puis après, mais le lendemain, on repart.
Vous êtes reparti.
Oui. Puis quand on roule, on a de la musique aussi dans le peloton, une grosse colonne de son.
Wow!
Oh, moi, j'aime vraiment ça. Puis,
mais là, vous êtes rendu à la 6e édition déjà de ta randonnée?
Oui, on est rendu à la 6e édition. C'est sûr que là, étant donné là, l'épidémie, mais là, ça a été repoussé à cet été. Puis la randonnée de Jimmy Pelletier là en 5 ans là a redonné 1,2 million net là pour les deux causes.
Bravo, donc, bravo, c'est impressionnant, c'est un montant qui est colossal. J'en doute pas que ça a dû faire une énorme différence pour beaucoup de personnes qui en avaient besoin. Et parlant de bonnes nouvelles et de se remonter le moral, ben je vous propose d'aller écouter une petite chanson.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I'm meeting my life. I'm reading people's faces and knowing what the cards were. By the way they held their eyes, so if you don't mind me saying, I can see you're out of aces for a taste of your whiskey. I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet. His face lost all expression. Said, "If you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for count when the dealing's done." Now every gambler knows the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best you can hope for is to die in your sleep. So when he'd finished speaking, he turned back toward the window, crushed out his cigarette, faded off to sleep. Then somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold 'em, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the deal's done.
C'était Kenny Rogers et sa chanson The Gambler, une chanson, Jimmy, qui te représente.
Ben oui, c'est sûr. Ben, j'ai toujours aimé cette musique-là, puis surtout pendant ça a parti aussi pendant la randonnée, là, le soir, on arrive, on a du plaisir, on prend une bière, il fait beau, le soleil, les lunettes fumées, on met une petite toune, ben oui, Kenny Rogers, The Gambler, avec Non, je suis un passionné de musique, puis j'aime bien aussi la musique country, là. Mm-hmm. Avec, tu sais, je viens de la Côte-Nord, ma famille, elle vient du Bas-Saint-Laurent, que ma mère, c'est une femme de country que... Fait que j'aime bien ça.
Elle t'a transmis ça, mais on entend en fait tu, la bonne humeur, on t'entend jusqu'en quand tu nous décris ce que tu adores faire. Puis c'est en fait une chanson que tes amis t'ont carrément associée à toi.
Oui, oui, c'est sûr. Oui, oui, puis j'ai même un de mes amis qui l'avait composé, il avait composé les paroles. Il a changé les paroles, puis c'était vraiment bon, puis en tout cas, c'est...
c'est ta chanson à toi.
Ben oui, c'est des beaux souvenirs, puis j'aime bien ça.
Ben oui. Puis là je vais de l'autre côté voir l'envers de la médaille. Est-ce qu'il y a des moments, Jimmy, où t'es un peu des petits coups de blues ou des moments plus difficiles ou de découragement, ou ça t'arrive pas à toi?
C'est sûr que des fois ça m'arrive. Ça dépend des circonstances là. Parce que tu sais, moi, j'ai connu marcher, j'ai mm-hmm. connu quand j'étais debout, puis là, du jour au lendemain, tu tombes en fauteuil roulant, puis là, exemple, je vais aller me promener, on va dire je vais aller me promener dans la neige, puis là, je roule, puis à un moment donné, whoop, les roues, ils spinent, puis là, t'es plus capable d'avancer. Puis là, tu te dis, je serais debout, hein, continuer à avancer.
Tout ça, puis là, tu te dis.
Fait que oui, des fois, tu te fâches, tu sais, je me fâche un petit peu, mais ça revient tout de suite, puis après, mais là, tu sais, je continue à faire mes choses, là, mm-hmm. mais que ce soit dans n'importe quoi que ce que je fais, mais des fois, tu te dis, ouais, si je serais debout, mais...
Ça serait plus facile,
mais après, je m'en reviens, puis je rechange tout de suite mon psychologique, là, là, après, mais là, je fonce, puis j'oublie ça, puis de toute façon, je me suis adapté dans ma nouvelle condition, puis... C'est pour ça aussi que présentement ma vie est belle.
Oui. Puis tes amis ont l'habitude de dire en blague, toi, il y a juste la lune où t'es jamais allé, tellement que t'arrives malgré tout à aller partout et à presque tout faire.
Ouais, j'arrête pas de me faire taquiner un petit peu, parce qu'en 2008, j'ai gravi le Kilimanjaro en vélo de montagne.
C'est incroyable.
Adapté, oui. Mais j'avais vu ça, mais juste une petite anecdote. C'est un gars qui s'appelle Chris Waddell. C'est un Américain. Puis Chris Waddell, là, c'est vraiment un athlète paralympique incroyable. Là. Il a gagné beaucoup de médailles en ski alpin, mais aussi en athlétisme. Puis moi, à l'époque, quand je tombais en fauteuil roulant, j'avais coursé, puis on s'est rencontrés à Atlanta pendant une compétition. Puis on avait jasé beaucoup, puis Chris Waddell, j'aimais vraiment cette personnalité-là, tout le temps souriant, il avait la même handicap que moi, puis moi, ça m'avait marqué. Que ça restait le même, puis à un moment donné, en regardant plein de choses là, sur Internet, bon, je tombe là-dessus, Chris Waddell, qui a monté le Kilimanjaro en 2009, là. Pas de bon sens, le premier gars en fauteuil roulant, paraplégique, d'avoir monté le Kilimanjaro.
Oui. Tu dis, il faut que j'y aille moi aussi.
Mais là, je me disais, puis là, en plus, moi, dans randonnée de Jimmy Pelletier, j'ai un monsieur qui fait du bénévolat pour moi, puis lui, il organise des ascensions au Kilimanjaro en Afrique, pour ramasser de l'argent. Ouais. Puis que là, je me disais, j'ai dit, Marc, tu penses-tu que ton contact en Afrique, tu pourrais-tu me demander, ouais, j'aimerais peut-être ça, moi, aller monter ça, pour peut-être ramasser des sous. Fait que là, en fin de compte, on a eu la réponse. Il dit, oui, pas de problème, on va monter par tel trail, parce qu'il y a plusieurs trails là-bas là, pour monter le Kilimanjaro. Fait que c'est beau. Fait que là, je m'ai préparé mentalement. J'avais vu juste une vidéo de 3 minutes et que j'ai dit, bon, il y a besoin des corps. J'ai vu qu'il y avait des planches. OK. Que là, j'ai dit au gars de l'Afrique, j'ai dit, ça me faut des planches, ça me faut des corps, puis ça me faut une toilette portative. Parce que moi, je suis en fauteuil roulant, puis je pense pas d'être capable d'aller faire un trou dans un trou vide dans la montagne. Fait que là, ça est parti de même. Puis là, je suis parti au Kilimanjaro en Afrique avec ma blonde. qui m'accompagnait. J'avais trois autres personnes aussi. Puis, on est parti là-bas. Puis, en même temps, je voulais caresser un rêve aussi d'aller faire un safari.
Oui.
Voir les animaux en Tanzanie. Puis, que c'est ça qu'on a fait. On a été voir les animaux, faire un safari, puis par la suite, après, on a monté le Kilimanjaro. C'est 5795 mètres d'altitude.
Peu importe, Jimmy, c'est tellement impressionnant, puis c'est tellement plaisant de t'entendre parce que tu nous fais voyager, tu nous fais rêver. Puis là, tu nous parles de voyage, mais je veux absolument que tu nous parles de ton voyage au Vietnam.
Oui. c'est ça, en 2007, puis mon ex-conjoint, à ce moment-là, mon ex-femme, on voulait avoir des enfants. Pour moi, c'était vraiment important d'avoir une grande famille. Mon père, son 17, est pelletier, on est une grosse famille, puis moi, j'aime les enfants. Et que là, en fauteuil, étant donné que c'était un petit peu plus compliqué, qu'il fallait que je fasse ça par in vitro, que là, on a fait la première tentative, puis ça n'a pas fonctionné. Tantôt quand tu me disais, ouais, Jimmy, tu dois avoir des moments, oui, ce moment-là, j'ai trouvé dur.
Ouais.
Ça, j'ai trouvé ça dur parce que je me dis, bon, j'aurais été debout, ça aurait été plus facile.
Ouais.
Mais là, à un moment donné, je m'arrête, puis il y a une autre petite voix qui me parle, puis il dit, Jimmy, il dit, oublie pas, là, peut-être que tu serais debout, puis t'aurais eu des problèmes aussi, là. OK, là, je me parle. j'ai dit à mon... je vais appeler Sandra, elle s'appelle Sandra, que là, j'ai dit à Sandra, j'ai dit, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rassayer une vitro, mais on va y aller via l'adoption, puis si ça marche pas une vitro, on fera l'adoption, puis, on l'adoption. On aura un petit bébé...
En plus.
En plus.
Oui.
C'est ça que j'ai fait. Puis là, contacté Vietnam, puis on était de l'avant, puis ça s'est pas bien été. Puis en janvier 2008, mais on est au Vietnam, aller chercher Sarah May. Elle s'appelle Sarah May, puis juste avant que j'avais eu sa photo, parce que j'ai eu ça via l'ordinateur, voilà ta petite fille, OK!
C'est excitant, mais oui, c'est incroyable, c'est magnifique comme projet.
Oui, c'est vraiment, c'est spécial, parce que, un enfant, c'est un enfant. Moi, mon bébé, ma petite fille, c'est ma pitoune à moi, puis, c'est... Sauf que, c'est une autre sorte d'accouchement, là.
Oui.
Puis, ta vie différemment. Mais quand on était là-bas, là, c'était, wow, le plus beau jour de ma vie. Puis, quand je l'ai pris dans mes bras aussi.
Oui. Elle avait quel âge, donc, quand tu l'as adoptée?
Elle avait 3 mois.
Oh, incroyable. Ouais. Et aujourd'hui, elle a quel âge, donc?
Là, elle est rendue à 13 ans.
Oui.
Oui, elle est rendue à 13 ans. C'est une petite fille épanouie, c'est une petite fille intellectuelle. Pas comme son père, là, elle est pas sportif.
Okay.
Vraiment pas sportif. Malgré que en fauteuil roulant, mais moi, quand je l'ai emmené ici, je restais à la maison pendant 5 ans. 24 heures/24, 7 jours/7. Je l'accrochais à l'arrière de mon vélo avec un chariot, puis je l'emmenais faire du vélo. Après, mais en ski de fond, mais là, je l'emmenais à l'arrière de moi en ski de fond.
Tu la traînes partout avec toi pour qu'elle puisse profiter de toutes tes magnifiques activités.
Oui. Puis je voudrais qu'elle aussi, c'était important pour moi parce que j'étais en fauteuil roulant, puis je me disais, je veux qu'elle voie son papa. Papa, il faut qu'il soit comme les autres.
Ben oui. Tu dois être un magnifique modèle pour ta chère Sarah May. Et en une minute ou à peine, oui. Jimmy, quel conseil tu donnerais aux personnes qui sont pas nécessairement bien dans leur peau ou juste pour leur donner un petit coup de pouce?
Ben, c'est de vivre le moment présent. Puis malgré ce qui nous arrive, des fois, les difficultés, mais c'est à travers nos difficultés qu'on sort le plus fort de soi-même. Puis, tu sais, faut jamais oublier qu'il y a toujours plus pire que nous autour de nous autres. Ben, pire, ce que je veux dire, il y a des certaines situations.
Oui.
Puis, faut se servir de ça. On s'en remonte, on fonce, puis on vit le moment présent parce que la vie est belle. Puis, faut pas oublier, faut s'adapter aussi.
Oui.
Des fois, c'est jamais comme la pandémie. Je sais que c'est pas facile, mais il faut s'adapter. Puis, c'est en s'adaptant qu'on l'accepte puis qu'on avance. Donc,
magnifique. Jimmy Pelletier, merci infiniment pour cette belle entrevue.
Ça me fait extrêmement plaisir.
Merci, c'est gentil.
Merci, bye-bye.
Ben merci à vous aussi, chers auditeurs, d'être toujours avec nous et je tiens toujours à remercier ma magnifique équipe, Mathieu Tessier qui est à la mise en onde, Claire Guérin, ma recherchiste, Jean-Sébastien Laliberté à l'habillage sonore. Et n'oubliez pas d'aller visiter le site canalm.vusevoix.com pour réécouter les émissions. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.